Vous écoutez, on lit pour vous.
Pouvoir et influence, un texte de Marie-France Bazot paru le 16 avril 2024 dans La Presse. J'ai beaucoup réfléchi ces derniers temps au pouvoir et à l'influence, à ce qui les distingue notamment et à leurs effets sur nous. Tout a commencé avec la récente publication par le magazine L'Actualité d'un palmarès des 100 Québécois les plus influents. C'est l'équipe du mensuel qui a dressé la liste, selon une méthodologie bien expliquée. Les personnalités devaient jouir d'une influence dépassant les limites de leur milieu et leur ascendant devait s'exercer ici, au Québec. Trois critères s'ajoutaient. Le pouvoir de l'institution à laquelle est liée la personne, son leadership et son charisme. Puis, beaucoup plus subjectif, sa volonté de faire avancer les choses, de remettre en question le statu quo, d'utiliser son influence pour changer la société. Ce qui laisse entendre que le progrès doit se faire dans le bon sens, selon L'Actualité. Ces exercices sont toujours stimulants, challengeants. Nous évaluons, comparons, ajoutons ou retirons telle ou telle personne, poussons les hauts cris. Loin de moi l'idée de critiquer. Ce palmarès sert à mesurer l'air du temps. Les critères, je le répète, sont bien exposés et engendrent des résultats cohérents. C'est aussi un palmarès aspirationnel, à l'image du mensuel, qui aime présenter des portraits d'acteurs de la société qui la propulse. En ce sens, cette liste valorise les personnalités qui font bouger les choses particulièrement, mais pas que, à gauche. On a certes reproché à L'Actualité son portrait blanc, vieux, 75% des personnalités ont plus de 50 ans, et masculin, à 66%. C'est un instantané de l'influence dans une société qui change, mais qui résiste aussi. Et il provoque certaines remises en question. Le pouvoir n'est pas l'influence. Il la regarde de haut, un brin méprisant. Il est plus enraciné, installé dans les institutions politiques et dans la possession des richesses. Il est un système. C'est pourquoi les politiciens du palmarès ne sont pas tous égaux. Ceux en position d'autorité disposent d'un pouvoir réel, celui de créer des lois, de donner une impulsion concrète, de décider ce qui marquera nos vies pour les années à venir. Alors que les politiciens de l'opposition exercent une influence. Et si les politiciens au pouvoir sont marqués idéologiquement, leur vision du monde teinte leur mandat, dessine les contours plus fermes d'une société différente, qu'elle nous plaise ou non. Pensons au pouvoir de Valérie Plante qui l'autorise à remodeler Montréal, pour le meilleur ou pour le pire. À celui de Justin Trudeau qui transforme le Canada avec son idéologie post-nationale. Leur pouvoir dépasse largement l'influence, il est structurant. Le pouvoir n'est ni nécessairement bon ni forcément néfaste. Il est surtout indiscutable. Il avance, dessinant les contours de l'ordre social. Ses effets sont durables et décisifs. Le pouvoir peut aussi parfois être intangible, diffus. Pensons au pouvoir d'annulation, aux campagnes de bannissement. Ce pouvoir se terre dans la rumeur, dans la machine médiatique, dans l'air du temps. C'est un pouvoir qui broie des individus, mais qui transforme aussi les mentalités. Sur l'influence, il y a beaucoup à dire. En démocratie, elle est partout, agit sur tous, dans toutes les sphères. Elle se déploie à travers des institutions, des tribunes intellectuelles, médiatiques, morales. L'influence est fluctuante. Un influenceur peut avoir été déterminant, mais voir progressivement sa force de frappe se déliter. À quoi mesure-t-on l'influence? Elle est extrêmement complexe, multiforme, et il faut convenir qu'elle ne s'exerce pas qu'à travers les individus. L'influence peut être un mouvement ou une idée. Pensons aux complotistes, aux anti-vax. Ils ont été une force d'influence non négligeable au Québec, qui a marqué certaines personnes à jamais. L'influence ne s'exerce pas que de manière constructive. J'ai souligné l'aspect généralement positif du palmarès de l'actualité. Oui, on est nombreux à vouloir que de jeunes féministes nous poussent vers le meilleur. Mais comment taire l'influence de phénomènes comme les mouvements masculinistes et autres Andrew Tate de ce monde sur de jeunes hommes d'ici? Ne pas regarder cette influence en pleine face cause des ravages. Les réseaux sociaux représentent une autre influence majeure et pas toujours bienveillante dans nos vies. Oui, il arrive que l'influence soit maléfique et toute croche. On parle de l'influence des Québécois sur les leurs, mais des personnalités étrangères et leurs idées fortes influencent aussi nombre de nos concitoyens, voire l'air du temps. Trump exerce une puissante séduction sur la pensée sociale et politique de nombreux Québécois. Il a décomplexé et libéré une certaine parole, le mensonge et la défiance aux élites. Notre société est en pleine reconfiguration, particulièrement depuis la pandémie. Ce palmarès nous aide à en clarifier le portrait. Mais il faut aussi inclure dans la photo de groupe ce qui nous trouble, nous déplaît, car ça nous influence aussi. Il faut faire face à ce qui nous hante pour pouvoir réagir. En terminant, j'ajouterai au palmarès la catégorie « influenceur disparu ». J'aime égoïstement penser qu'un Serge Bouchard, par son ouverture d'esprit, son savoir généreux, sa curiosité, nous influence encore. C'était « Pouvoir et influence », un texte de Marie-France Bazot paru le 16 avril 2024 dans La Presse.
Le pouvoir de dire non. Un texte de Nicolas Bérubé, paru le 26 mai 2024 dans La Presse. Il y a parfois des articles qui semblent rédigés sur mesure pour faire réagir les gens qui écrivent sur les finances personnelles. Comme celui-ci, l'autre jour, sur le site 24 heures. Le budget d'Alexandre, un homme de 36 ans, qui refuse d'épargner pour la retraite. Bon. Un millénial qui se la joue YOLO, You Only Live Once, rien d'inédit, mais ça a valu un clic de ma part. L'article révèle comment Alexandre, vidéaste à son compte, vit au gré de ses envies et de ses humeurs. Il touche actuellement de très bons revenus, 8 000 $ par mois après impôts, en dépense plus ou moins la moitié et laisse dormir l'autre moitié dans un compte à la banque. L'argent qui s'accumule sert à un projet à court terme, comme une expérience ou un voyage. Je pourrais reprendre ici le détail des dépenses d'Alexandre et dire comment il pourrait les optimiser sans diminuer sa qualité de vie, mais je ne le ferai pas. Notre vidéaste a quelque chose de bien plus urgent à régler que le prix de son épicerie, près de 600 $ par mois pour une personne seule, on vit à trois avec un montant semblable. On change avec l'âge. Le problème est sa philosophie de se dire que, passé l'âge de 65 ans, il va tout simplement continuer à travailler. J'aime travailler et j'ai la chance de faire un travail qui est aussi une de mes passions. Quand je regarde des acteurs qui ont 75 ans, je veux être cette personne qui continue d'avoir du fun et des passions. Même si mon désir d'être un snowbird est réel, je ne me vois pas juste rien faire, même si je sais que ça peut changer. L'erreur ici est en fait très courante. C'est de croire que nous serons la même personne à 75 ans qu'à 36 ans, mais avec seulement quelques rides en plus. De penser que dans les 4 décennies d'intervalle, nos genoux ne se mettront pas à produire des éclairs de douleur, que notre dos sera toujours souple et coopératif, que notre niveau d'énergie sera toujours aussi élevé, que des choses comme vivre une dépression, être blessé dans un accident ou être incapable de travailler pour mille et une raisons affectera les autres, mais pas nous. Aussi que, sur le plan professionnel, notre intérêt n'aura pas changé en 40 ans. que nous ne découvrirons pas une passion pour la voile, le massage, le yoga, le voyage, l'écriture, la photographie, le bénévolat, la flûte à bec. Bref, pour plein de façons valides d'occuper notre temps limité sur cette planète. Se donner la possibilité de refuser. Je conçois parfaitement que, pour de nombreuses personnes, investir pour l'avenir n'est pas excitant. Surtout quand tout va bien au travail et qu'on paie chaque facture à temps sans stress. Une autre façon de voir l'investissement, c'est qu'il développe notre pouvoir de dire non. C'est subjectif. Mais j'estime qu'une personne qui travaille depuis des décennies a gagné le droit de dire non. Non à un horaire désagréable. Non à des projets ennuyants ou répétitifs. Non au travail pour un client déplaisant. Non à l'obligation d'assister à des réunions qui n'en finissent plus, etc. Mais la personne qui vit d'une paix à l'autre n'a souvent pas le pouvoir de dire non. Un contrat disponible est mal payé? On se fait offrir de travailler sur un projet plate? On peut se sentir obligé de dire oui, tout simplement pour ne pas laisser passer un revenu. À 30 ans, c'est normal. Mais à 75 ans, tout à coup, notre passion pour notre travail devient bien relative. La personne qui a épargné et investi durant sa carrière a diversifié ses sources de revenus. Avec le temps, son revenu de travail deviendra secondaire. Ses investissements pourront prendre le relais au besoin. Renoncer à cette diversification, c'est miser sur l'idée que nous allons louer nos heures pour payer nos factures jusqu'au jour de notre mort. Peut-être que ce sera le cas. Mais c'est un pari. On met littéralement notre vie en jeu en le faisant. Gérer son temps. L'un des plus grands générateurs de bonheur est d'avoir la possibilité de gérer notre temps comme on l'entend, écrit l'auteur financier Morgan Housel. La possibilité de faire ce que l'on veut, quand on le veut, avec qui l'on veut, aussi longtemps que l'on veut, n'a pas de prix. C'est le dividende le plus élevé que l'argent puisse offrir. Ça me fait penser à un message que j'ai reçu en 2023 d'un médecin spécialiste avec un gros train de vie, très endetté, qui venait de dépenser 50 000 $ pour un voyage en Europe en famille. Il m'écrivait « Les médecins ont en général une vocation et ne rêvent pas tant que ça à la retraite. J'ai un collègue de 80 ans, très riche, qui arrive en souriant tous les jours au bureau et qui est encore passionné. S'il me manque des fonds à 85 ans, je souhaite que mes enfants puissent me dépanner et me rappeler à quel point ils ont eu de superbes moments en famille. » Ouf! Peut-être que je manque d'imagination, mais une personne qui gagne bien sa vie a le devoir d'assurer son propre avenir financier avant de se mettre à vivre comme Jeff Bezos. Remettre sa sécurité financière entre les mains de ses enfants, qui auront eux-mêmes leur propre famille à faire vivre, c'est s'assurer des moments difficiles après une carrière qui aurait facilement pu éliminer tout tracas d'argent pour les dernières décennies de sa vie. Ce médecin m'a réécrit quelques mois plus tard. Il travaillait à payer ses dettes. Je cherche aussi à mieux éduquer mes enfants en matière de finances, a-t-il écrit. Tout ça est un long processus et je lui ai souhaité bonne chance. Pour résumer, travailler par choix à 75 ans, succès. Travailler par obligation à 75 ans, échec. Investissons en conséquence. C'était « Le pouvoir de dire non », un texte de Nicolas Bérubé, paru le 26 mai 2024 dans La Presse.
Les libraires craquent, polar et littérature de l'imaginaire, une sélection de 7 titres des libraires indépendants, paru le 5 février 2024 dans la revue Les Libraires. 1. La revanche. Arttu Tuominen, traduction Anne Colin du Terrail, La Martinière, 370 pages, $37,95. Drame dans la petite ville de Pori, en Finlande. Un attentat meurtrier vient de survenir dans un bar que fréquentent des membres de la communauté LGBTQ+. L'enquête est confiée aux inspecteurs Jari Palovita et Henrik Oxman. Pour ce dernier, l'affaire revêt une dimension personnelle, puisqu'il a quitté cette boîte de nuit une heure à peine avant l'explosion, en compagnie d'un homme rencontré sur place. Comment mener à bien son enquête sans dévoiler cette facette de lui-même qu'il a jusque-là réussi à cacher à ses collègues? L'auteur ramène son duo de policiers qui nous avait époustouflés dans Le Serment. On attend avec impatience la traduction du 3e tome de cette palpitante série qui n'hésite pas à explorer les zones d'ombre de chacun. André Bernier, Librairie L'Option, L'Apocatière. 2. Le Pont des Tempêtes, tome 2, La Reine Traîtresse, Daniel L. Jensen, traduction Laurence Boischaud, Bragelonne, 384 pages, $36,95. Avec ce 2e tome, on quitte le confort nouvellement apprivoisé d'Itikana pour retourner là où tout a commencé pour Lara. Cette fois-ci, c'est Aran qui subit la colère de Silas. Le roi de Maridrina le garde captif dans le but d'inspirer un retour au bercail de sa fille, la traîtresse. En tant que lecteur, on se retrouve dans un tout autre état d'esprit que dans le premier livre. Un vent de fraîcheur et d'angoisse nous invite à tourner les pages le plus vite possible pour connaître le sort de nos protagonistes. Cette fois-ci, aidée de quelques-unes de ses sœurs, Lara pourra-t-elle secourir son mari et gagner la confiance de son bien-aimé à nouveau? Ensemble ou non, pourront-ils sauver leur royaume? Anne Lapointe, Librairie Marie-Laura, Jonquière. 3. Le poids des années, Guillaume Morissette, Saint-Jean, 432 pages, $26,95. Dans Le poids des années, Guillaume Morissette nous entraîne dans une enquête à Shawinigan, où un ancien professeur est retrouvé mort dans un bois. J'ai adoré suivre la procédure avec les policiers. C'est passionnant du début à la fin de les voir retracer ce qui est arrivé à la victime. Même si l'on sait assez tôt dans le roman ce qui s'est réellement passé, le livre reste accrocheur jusqu'à la dernière page. C'est intéressant de savoir pourquoi le meurtrier a commis cet acte et comment il s'y est pris. J'aimerais bien lire une suite mettant en scène d'autres investigations de Gary Demers, l'enquêteur principal. Un roman policier à ne pas manquer. Si vous êtes fan d'enquête, comme je le suis, vous aimerez celle-ci. Stéphanie Gay, Librairie Raffin, Repentigny. 4. La mère de la tranquillité, Emily St. John Mandel, traduction Gérard Chergé, Alto, 272 pages, $28,95. Je ne lis que très rarement de la science-fiction, mais comment résister à un nouveau roman de l'autrice de Station Eleven? Dans un avenir pas si lointain où l'humain a colonisé la Lune, Gasperi Jacques enquête sur une brèche temporelle. Se téléportant entre les années 1912, 2020 et 2203, Gasperi rencontre des êtres qui changeront sa perception du monde et remettront en question la pertinence de sa mission. Mais un électron libre dans un élément si fragile et fondamental que le temps, peut-il le rester? La mère de la tranquillité n'est pas qu'une autre histoire de voyage dans le temps, c'est un roman d'une grande poésie qui nous porte à réfléchir sur l'art, la solitude, la compassion et ce qui nous rend humains. Caroline Gauvin-Dubé, Librairie Boutique Vénus, Rimouski. 5. Ariane, Jennifer Saint, traduction Benoît Domi, Sabran, 384 pages, $37,95. Connaissez-vous le mythe du Minotaure? Celui dans lequel Thésée, un jeune héros, doit affronter la bête et sortir du labyrinthe sain et sauf? Redécouvrez ici cette histoire, mais sous le point de vue d'Ariane, cette jeune femme sans laquelle Thésée n'aurait jamais réussi sa mission. Qu'a-t-elle accompli derrière les rideaux? Et que lui est-il arrivé après Thésée? Ce roman fantastique nous plonge droit au cœur de la mythologie grecque. La plume de Jennifer Saint nous fait vivre toutes les émotions d'Ariane et de sa sœur Phèdre, tout en dépeignant avec précision la culture de la Grèce antique. Vous serez assurément charmé par cette tragédie frappante. Cette lecture offre également une réflexion très pertinente sur le pouvoir et la popularité. Jennifer Simard, Librairie Marie-Laura, Jonquière. 6. Récit du vieux royaume, Le chevalier aux épines, tome 2, Le conte de l'assassin, Jean-Philippe Jaworski, Les moutons électriques, 518 pages, $49,95. Les adeptes des récits du vieux royaume reconnaîtront sans mal le narrateur légendaire au chicot doré, qui effectue ici un retour pour le moins malaisé. Le grand merdier n'est pas prêt de se clarifier, d'autant que le sbire du sénateur Ducator est forcé de s'y mêler après avoir vomi ses tripes en cadence avec les galériens. C'est que, s'étant fait grand argentier de Ciudadela, il doit se rendre au duché de Bromael avec la précieuse cagnotte de son Machiavel et qui fait office de dot pour le moins généreuse. Stylistiquement, c'est un retour à ce à quoi Jaworski nous a habitués, soit un savant mélange d'argot de fond de taverne, de descriptions virtuoses saupoudrées d'archaïsmes érudits et de personnages à la moralité plus que douteuse. Thomas Dupont-Buist, Librairie Gallimard, Montréal. 7. Déshonneur au camp 133, une enquête du sergent Neumann, Wayne Arthurson, traduction Pascal Raud, à lire, 348 pages, $29,95. Il a de quoi surprendre, ce récit de Wayne Arthurson, au milieu de l'Ouest canadien, en pleine Seconde Guerre mondiale, d'un soldat allemand enquêtant sur la mort d'un autre soldat allemand. Nous sommes en décembre 1944. L'Allemagne va perdre. Ils sont plusieurs à l'admettre dans ce camp de prisonniers, dans une petite ville allemande de plus de 20 000 habitants en Alberta. On s'enrichit en se préparant à l'après-guerre, en commerçant avec les geôliers canadiens, quitte à éliminer ceux qui s'interposent à ce trafic. Une situation intolérable pour le sergent Neumann, un vétéran de l'Afrika Korps, un dur à cuire, chargé du contrôle de la sécurité et pour qui c'est un déshonneur pour tout soldat allemand de pactiser avec l'ennemi. Incorruptible, il se dresse comme un Elliot Ness face à cette bande de malfrats prêts à toutes les audaces, y compris celle de s'échapper du camp pour mettre un terme à ses méfaits. Que veut dire, en ces temps-là, être un bon Allemand? Nous interroge Arthurson. Christian Vachon, Librairie Pantoute, Québec. C'était les libraires Crac, Polar et littérature de l'imaginaire, une sélection de 7 titres des libraires indépendants, paru le 5 février 2024 dans la revue Les Libraires.
Mmh. La sécheresse est le principal carburant des incendies de forêt nocturne selon une étude. Un texte de Brenna Owen, paru le 14 mars 2024 dans La Presse. Une nouvelle étude réalisée en Colombie-Britannique émet l'hypothèse que la sécheresse est le principal carburant des incendies de forêt qui brûlent pendant la nuit. Les combustibles très secs favorisent un comportement et une croissance extrême des incendies la nuit, bien que le réchauffement climatique érode également la barrière climatologique qui limite généralement les incendies nocturnes. Cette conclusion marque un changement par rapport à la croyance selon laquelle l'obscurité signifie généralement des conditions d'incendie plus calmes. Mike Flanagan, l'un des co-auteurs de l'étude, affirme que la découverte du rôle de la sécheresse a amené les chercheurs à démontrer que les conditions diurnes peuvent être utilisées pour prédire comment un incendie brûlera pendant les nuits, une information qui pourrait être cruciale pour les efforts de lutte contre les incendies. À son avis, toute information sur l'activité d'un incendie nocturne est vraiment essentielle, surtout lorsqu'un incendie approche d'une ville. L'étude rappelle que les modèles climatiques prédisent que les étés deviendront plus chauds et plus secs, des conditions que Mike Flanagan décrit comme une poudrière pour les incendies de forêt. Les chercheurs ont utilisé des enregistrements d'incendies de forêt et des données satellites pour examiner plus de 23 500 incendies survenus en Amérique du Nord de 2017 à 2020. Les chercheurs ont identifié 1095 incendies nocturnes associés à 340 incendies de forêt et ont découvert que la grande majorité s'étendait sur au moins 10 km carrés. Les facteurs déterminants étaient la sécheresse et la disponibilité des combustibles forestiers, tels que les herbes, les feuilles mortes, les brindilles et les branches. La recherche révèle aussi que les feux nocturnes se produisaient souvent dans les deux jours suivant l'inflammation. Mike Flanagan affirme qu'il s'agit d'une donnée importante, car elle permet de mobiliser l'usage des ressources de lutte contre les incendies dans le but de contenir les flammes avant qu'elles ne se propagent. Les chercheurs ont aussi développé des modèles pour déterminer si les incendies nocturnes pouvaient être prédits et ont découvert que les conditions diurnes préparaient le terrain pour ce qui se passait la nuit. Il n'existe présentement pas de politique ou de protocole spécifique visant les brûlages nocturnes. De nombreux facteurs doivent être pris en compte lorsqu'il s'agit du travail de nuit, notamment les niveaux de supervision et la disponibilité des équipes. C'était « La sécheresse est le principal carburant des incendies de forêt nocturne selon une étude », un texte de Brenna Owen paru le 14 mars 2024 dans La Presse.